on me dit que dans le J2, ces temps-ci, ils lisent ensemble l'Évangile de Jean et ils commentent, ils posent des questions, ils essaient de comprendre ensemble. Quel beau programme! C'est simple, mais ça nous amène dans le cœur de la volonté de Dieu, hein, avec l'Évangile de Jean. Et nous allons, nous, aller dans une autre partie de la Bible écrite par quelqu'un qui s'appelle Jean. Et aujourd'hui, c'est Apocalypse chapitre 4. Vous excuserez d'avance, s'il vous plaît, le PowerPoint. J'ai encore fait des maladresses au niveau des polices que j'ai choisies. Et on me dit que des fois, ce qui a l'air beau à l'écran chez nous va être difficile à lire ici. On va voir. OK, ça, c'est pas trop pire. On va lire le texte. Le chapitre 4, j'aurais besoin de l'aide d'une autre personne qui est prête à lire bien fort de l'écran. Et ceux qui veulent ouvrir dans leur Bible, c'est le quatrième chapitre, qui est le passage central de tout le livre de l'Apocalypse. Je vais expliquer un peu plus tard, mais on va le lire d'abord. Est-ce que quelqu'un est prêt à lire à l'écran un des paragraphes? Il y a trois diapos comme ça. Et Francine, parfait. OK. Alors, je vais commencer, puis tu vas lire la prochaine diapo. C'est bon? Alors, c'est Jean qui parle et qui écrit ici. Il dit, « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or.
Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent quatre êtres vivants, couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième à un taureau. Le troisième a le visage d'un homme. Et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint » est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient.
Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Amen. Seigneur, que ta parole est belle. Guide-nous ce matin. Enseigne-nous. Que tu sois élevé dans nos cœurs comme dans ce texte. Amen. vérifier que... Oh, est-ce que j'ai... On a peut-être perdu Shadan, mais on va la rappeler. Voilà. On parlait d'Haïti tout à l'heure et qui est beaucoup dans les nouvelles. Oui, alors on t'a perdu, alors te voilà. Oh, alors on va essayer de te garder maintenant. Oui, on vient de lire Apocalypse chapitre 4. Et dans les nouvelles, on parle beaucoup d'Haïti et oui, il est important de prier pour ce pays et pour les chrétiens de ce pays. La couverture médiatique au Canada peut-être est parfois superficielle. On va parler des événements spectaculaires récents et du sort des Canadiens qui étaient là-bas et qui sortent. Mais les vraies causes du problème, on va parfois trouver des analyses plus approfondies et les gens vont essayer de trouver... Quel est le problème? Est-ce que c'est la corruption des leaders locaux? Est-ce que c'est l'ingérence égoïste d'autres pays puissants? Est-ce que c'est la mainmise malsaine de grandes compagnies? Est-ce que c'est les faiblesses des infrastructures? Est-ce qu'il y a des problèmes dans la population elle-même ou de certaines parties de la population? Enfin, il y a toutes sortes d'analyses et en fait, ça peut être une combinaison de plusieurs choses et personne n'arrive à trouver le vrai problème à régler, en tout cas pour le moment. Mais nous prions que Dieu, dans sa grâce, amène des solutions. En tout cas, le livre de l'Apocalypse nous rappelle que dans tous les pays du monde, pas juste en Haïti, il y a une vérité derrière les réalités. Une force mystérieuse du mal qui agit invisiblement et puissamment dans notre monde humain et qui nous met sous son contrôle. Il y a des êtres spirituels puissants voués à notre destruction. On parle de Satan, les anges déchus qui l'ont suivi. Ils sont à l'œuvre en Haïti. Sont à l'œuvre au Canada aussi, sont à l'œuvre dans tous les pays. Et là où les humains sont vulnérables parce qu'ils se sont laissés aller à la désobéissance contre Dieu, ils peuvent devenir et sont souvent prisonniers des façons de faire, des schémas, des forces du mal. Et en fait, on peut dire que renversant les forteresses, c'est que tu regardes dans ta propre vie. Est-ce que dans mon passé, j'ai donné un accès aux forces du mal, par peut-être sans m'en rendre compte, et je dois prier avec d'autres pour être libéré, pour être purifié de certaines pratiques auxquelles j'ai participé, certaines mauvaises habitudes où je suis devenu dépendant et ce n'est plus moi et ma bonne conscience qui contrôle, mais il y a des forces à l'extérieur de moi qui contrôlent. Le livre de l'Apocalypse nous aide à voir la vérité profonde derrière les réalités dans nos vies et même dans les nations. Et le texte que nous voyons ce matin nous pose les vraies questions. Dans notre monde, qui est vraiment digne de notre adoration et notre soumission? Et puis, qui demande notre adoration et soumission, mais n'est pas supposé l'avoir? Puis peut-être, sans s'en rendre compte, on se soumet à une adoration, à une soumission envers quelqu'un qui n'est pas supposé l'avoir. Qui est-ce qui s'érige en faux maître? Puis comment résister aux tromperies? Voilà le thème global du livre de l'Apocalypse. C'est très, très, très important. Et le chapitre 4 nous met ces questions que je viens de dire devant nos yeux. Et j'espère que ce message de ce matin va nous aider à comprendre plus clairement ces questions puis à mieux vivre les bonnes réponses. Parce que cette vision qu'on vient de lire, c'est la vision de celui qui est assis sur le trône, dans le monde invisible, mais qui est réel. Et cette vision nous montre qui détient vraiment l'autorité et qui nous devons adorer. Il y a des mots qui manquent, mais écoutez-moi, cette vision de celui qui est assis sur le trône nous montre qui détient vraiment l'autorité et qui nous devons adorer. Donc, on va explorer la vision qu'on a lue en trois temps. Le premier paragraphe qu'on a lu, c'est le début de la vision, c'est les versets 1 à 4. Le deuxième paragraphe, c'est le milieu, et là, on voit l'adoration céleste. Puis le troisième paragraphe, c'est l'adoration des humains. Donc, premier paragraphe, c'est plutôt la mise en scène. Deuxièmement, l'adoration des êtres célestes. Troisième paragraphe, l'adoration des humains, mais qui sont dans le monde céleste. Alors, premièrement, le début de la vision, le premier paragraphe qu'on a lu, les quatre premiers versets, pour bien comprendre la vision qu'on lit, il faut se souvenir de ce qui est venu avant. On se souvient, le prophète apôtre Jean, il est en prison, il est en exil sur l'île de Patmos où l'Empire envoyait ceux qui posaient des problèmes pour être incarcérés. Il souffre. En fait, toute l'Église de cette époque-là souffre. Elle subit l'opposition du monde qui nie la réalité du Dieu créateur et se soumet de plus en plus à l'autorité des empereurs romains qui se mettent à la place de Dieu. Ça, on a vu ça dans les dimanches passés. Et c'est vrai qu'on se dit, bien, au Canada, c'est pas comme dans l'Empire romain. On a la liberté religieuse, mais d'année en année, quand même, on sent que même au Canada, la liberté, les privilèges religieux qu'on a, sont en train de reculer. Et il y en a qui s'inquiètent de notre liberté religieuse. Le livre de l'Apocalypse nous dit, ne vous inquiétez pas, veillez, soyez vigilants, et avec Jésus, préparez-vous pour les bons temps et aussi les temps difficiles, même au Canada. Alors, Jean souffre, il est en prison, il est visité soudainement par Jésus ressuscité. Il est complètement bouleversé par la vision qu'il reçoit. Puis en même temps, il est complètement réénergisé dans son ministère. Parce qu'il voit d'une manière claire qu'est-ce qui était devenu moins clair par son expérience. Jésus, envoyé par Dieu le Père, qui lui dit, Dieu règne encore, il est encore le maître. Puis dans un deuxième temps, ce Jésus qui vient à Jean, lui donne sept lettres à transmettre aux églises de tous les temps, en commençant par son temps à lui. Et les lettres disent, c'est encore moi le maître, hein, Dieu qui parle, c'est encore moi le maître. Repentez-vous de vos compromis. Persévérez dans la foi, continuez à me suivre. Ma victoire arrive bientôt, puis ça va être la vôtre aussi. C'est pas compliqué, mais c'est ça un peu à quoi servent les prophètes. C'est quand les choses deviennent floues, Dieu leur donne une piqûre d'adrénaline puis de vision claire pour ramener les peuples. Le peuple de Dieu a une vision claire de ce qui se passe vraiment. Et dans cette première partie, avec la vision et les lettres, l'action se passe sur la terre. Puis, à partir du chapitre 4, qu'on a commencé aujourd'hui, c'est autre chose. Ce n'est pas Dieu qui vient sur la terre pour parler à son peuple. C'est Dieu, enfin, en la personne de Jésus, qui dit à Jean, « OK, maintenant, toi, monte dans le monde céleste. Hein? » C'est ce qu'on a vu au premier verset. « Monte par la porte ouverte. Traverse dans le monde invisible du spirituel. » Puis je vais te montrer clairement, avec plus de détails, ce que j'ai déjà dit dans les lettres, mais qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir du monde? Hein? Jésus a dit l'essentiel dans les lettres. Hein? Revenez à l'adoration exclusive et enthousiaste, parce que votre souffrance, c'est juste pour un temps. Et là, le reste du livre revient toujours à ce message, mais avec plus de détails. Et parfois, les églises se sont un peu égarées en vraiment se focalisant sur les détails des grandes visions qui viennent après le chapitre 4. Et même, ils se chicanent par rapport à la tribulation. L'antéchrist, c'est qui? Est-ce que l'antéchrist, c'est un homme politique de notre temps? J'ai entendu une prédication sur l'Apocalypse récemment, puis c'est ce que le prédicateur disait, que l'antéchrist, on va en parler parce que l'Apocalypse en parle, mais l'église où ce prédicateur avait grandi parlait tellement de l'antéchrist, alors que c'est un thème secondaire du livre de l'Apocalypse, mais ils en parlaient tellement que c'était un petit garçon, puis il priait. « Jésus, je prie que ce n'est pas moi l'antéchrist. » Il avait tellement peur. Il était obsédé par l'antéchrist. Soyons obsédés plutôt par Dieu. Dieu qui règne et qui nous demande d'être fidèles. Et les attaques de l'ennemi vont prendre différentes formes. On résiste toujours, en gros, de la même manière. Et c'est intéressant qu'au début, au début de cette deuxième longue partie où Jean va voir les choses dans les détails, ça commence avec une vision de Dieu sur son trône. Et comme quelqu'un a dit durant le temps de louange, dans les lieux célestes, Dieu est adoré sans cesse. Et c'est parce qu'on le voit dans toute sa gloire et on ne peut rien faire que de l'admirer et de l'adorer. Et donc, ce chapitre 4 est vraiment important parce que tout après le chapitre 4 nous ramène à ce que Jean voit au chapitre 4. C'est cette première vision de la grandeur et de la puissance et de la pureté de Dieu. Amen. Alors, une couple de choses que je voudrais dire par rapport au texte qu'on a lu, c'est d'abord, Jean, qui a vraiment vécu cette expérience en esprit, Dieu lui a vraiment parlé, lui a vraiment montré des choses, il lui a montré des choses claires, mais on voit que quand il doit les écrire pour que d'autres les entendent, il a de la misère à les raconter clairement. Il va utiliser des expressions comme « j'ai vu quelque chose qui ressemblait à l'apparence d'un lion. J'ai vu quelque chose qui avait la forme d'une pierre comme celle du jaspe. » Alors, vous voyez un peu comment il cafouille avec ses comparaisons. C'est parce qu'il voit des choses qui ne sont pas dans notre monde, qui ressemblent à des choses dans notre monde, mais qui sont bien au-delà. Hein? Dieu dans son infinité, Dieu dans sa perfection. C'est impossible à vraiment décrire dans le langage humain d'une manière totale. Donc, juste ce que la Bible nous dit, c'est vrai, on peut y faire confiance, c'est inspiré par Dieu lui-même, mais il faut toujours se souvenir que les mots humains ne disent pas tout. Elles nous pointent dans la bonne direction, mais il faut toujours se souvenir que Dieu est beaucoup plus grand que la boîte dans laquelle nos mots le mettent. Ces mots nous pointent dans la bonne direction, mais Dieu est encore plus que ce que les mots disent. Oui, Dieu est grand et Dieu est bouleversant. Et heureusement qu'il est puissant, il est infini, mais il est aussi amour. Il vient à nous dans sa miséricorde parce qu'il aime les humains. Et normalement, tu es invité dans le monde de Dieu, tu risques d'être pulvérisé. C'est comme un peu, comme j'ai déjà dit, c'est un peu comme rentrer au centre d'un réacteur nucléaire. Tu rentres et puis ici, on voit que Jean est invité. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas parce que Dieu aime les hommes. Et voici une prophétie dont j'ai déjà parlé qui est très, très importante. C'est Ésaïe qui l'a dit plusieurs centaines d'années avant l'Apocalypse. C'est le même principe. L'Éternel dit par le prophète Ésaïe, « Voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et dans la sainteté. Mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. » Est-ce que ce n'est pas un mot encourageant pour forteresse, ça, que Dieu, oh my gosh, tellement grand, tellement inaccessible, mais pourtant, il aime tellement le monde que, fin de semaine prochaine, il y a du monde vraiment brisé qui vont venir, qui ont honte devant Dieu peut-être à cause de leur brisure. Dieu les accueille. Dieu les accueille s'ils se tournent vers lui dans l'humilité et dans la foi. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est que Jean, pour nous parler, il trouve des comparaisons, des symboles, des codes, des images. Et ils sont inspirés de Dieu. C'est Dieu qui lui donne les idées. Nous aussi, on doit demander l'aide du Saint-Esprit. Et aussi, on utilise notre intelligence, notre connaissance du reste de la Bible pour interpréter. Alors, dans ce premier paragraphe, on voit des symboles. Premièrement, le trône. Le trône dont il est question, la première chose que Jean voit dans ce monde céleste, le trône nous parle de l'autorité de Dieu sur l'univers et sur l'histoire. Et ça, c'est important dans le monde où les humains se battent pour monter sur les trônes. Et même aujourd'hui, et peut-être ceux qui connaissent la politique en Haïti, vous voyez qu'il y a des luttes et des combats pour ça va être qui le prochain président et ainsi de suite. C'est la même chose dans tous les pays. Dieu est sur un trône et il ne le quitte jamais. Et c'est lui qui est le maître. C'est lui qui met les humains sur les trônes humains. Il peut les enlever de là aussi. Amen. Oui. Deuxièmement, l'aspect de la pierre de jaspe et de sardoine, c'est des pierres précieuses rouges. Elles sont dures comme le granit et elles brillent comme le feu. Il y a là une lumière, une beauté qui émane de Dieu sans arrêt. Hein? C'est une roche, donc il y a quelque chose de solide et de permanent. Et l'arc-en-ciel aussi, l'arc-en-ciel qui est au-dessus de celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu, c'est de l'émeraude. Donc, en tout cas, ça ressemble à de l'émeraude. Encore une fois, solide et permanent comme de la roche, mais la pierre précieuse de l'émeraude est plutôt bleu-verte. C'est une couleur d'espérance. Mais on pense aussi au symbole de l'arc-en-ciel dans l'Ancien Testament. L'arc-en-ciel, on a vu ça l'année dernière. Dans quel épisode de la Bible l'arc-en-ciel? Est-ce que vous vous souvenez? Genèse, oui. L'histoire de Noé, hein? C'est le symbole de la miséricorde de Dieu. Je ne vais plus détruire les humains. La promesse, c'est une alliance. Oui, une promesse, un engagement de Dieu. Donc, l'arc-en-ciel de Apocalypse 4 que Jean a vu, plusieurs pensent, c'est le rappel que ce Dieu qui brille comme le feu sur son trône, qui a une couleur rouge, par-dessus sa tête, son amour, son pardon est exprimé par le bleu. Mais ce n'est pas un arc-en-ciel. Ce n'est pas un arc-en-ciel dans notre monde qui dure 30 secondes, 3 minutes. C'est une référence à l'émeraude, quelque chose de permanent. Parce que son amour est permanent et son pardon aussi. Alors, mettons-nous à la place de Jean, le prophète apôtre. Il est bouleversé par son expérience, puis le fait qu'il décide après de l'écrire, puis qu'on le lise jusqu'à aujourd'hui dans les églises, il voulait partager avec nous son trip, son expérience, son bouleversement. Il nous invite du mieux qu'il peut à être ébloui, à être saisi par la grandeur de notre Dieu. L'admirer, on n'est pas là avec lui, mais on reçoit ses paroles, on essaye d'imaginer et que nous ne cessions jamais d'adorer ce merveilleux Dieu qui est si beau, si éclatant dans son feu, dans sa beauté, aussi dans son amour. Continuons à adorer Dieu de mieux en mieux, comme on a fait ce matin. Hein, je nous écoutais adorer et je me disais, je trouve que ça commence à ressembler un petit peu à ce qu'on voit dans Apocalypse 4. Puis c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et il y a toutes sortes de manières d'adorer. Des fois, une adoration silencieuse et contrite parce qu'on n'a pas de mots. C'est tout aussi puissant que de l'adoration très volubile. Il y a toutes sortes de manières d'adorer, mais soyons ces adorateurs. Jean nous invite à aller avec lui dans ce monde d'adoration. Deuxièmement, il y a le milieu de la vision, et ça, c'est les êtres célestes. Premièrement, il y a un détail au verset 5 que je voulais mentionner. Les bruits forts. Jean, il est là, et la première chose qu'il dit, ou une des premières choses, il y a des éclairs, des voix et des coups de tonnerre qui sortent du trône. Donc, ce n'est pas silencieux. C'est du bruit, mais on dirait que c'est pas mal le spectacle son et lumière avec explosion. Et des grondements de voix, peut-être aussi. Parce que c'est le mot « phoné » en grec. Ça rappelle quand Yahvé vient à Israël dans le désert et quand il se révèle à Moïse sur la montagne, bien, il y a le même genre de phénomène. La montagne est recouverte de fumée, il y a des éclairs, des voix puis des coups de tonnerre. Et en plus, une trompette. Wow! Donc, ça veut dire que quand tu rentres dans la présence de Dieu, t'en as plein les yeux, t'en as plein les oreilles. Dieu se manifeste et tu le remarques. Puis ça doit être difficile d'être distrait. Sa majesté va remplir tous nos sens. Et je sais que c'est pas facile d'adorer Dieu sur la terre. Et à l'Oasis, on est entouré de distractions. Nos enfants sont là avec nous en train d'adorer. Parfois, notre voisin ne chante pas de la manière qu'on aime. Et ça serait le fun que Dieu nous donne un son et lumière pour enlever toute distraction. Mais en tout cas, souvenons-nous que notre Dieu, quand il vient à nous, on le remarque. Et sa majesté va remplir tous nos sens. Et ça sera particulièrement notre expérience lorsqu'on sera avec lui. Ensuite, les sept lampes qui sont les sept esprits. Donc, c'est à côté du trône, devant. Il faut décoder le mot sept, le chiffre sept. En fait, c'est le Saint-Esprit. C'est une drôle de manière de parler du Saint-Esprit. Il n'y a pas sept Saint-Esprits. Il y a un seul Saint-Esprit. Et le chiffre sept ici signifie non pas l'Esprit de Dieu dans une multiplicité, mais l'Esprit de Dieu dans la plénitude de Dieu. Le chiffre sept signifie Dieu dans sa totalité, puis Dieu dans son essence profonde. De la même manière que dans la prochaine vision qu'on va étudier, Jésus est représenté comme un agneau. Oui, oui, c'est ça, la lampe des bougies qui est dans le sanctuaire et qui est devant le sanctuaire. Il y a sept bougies exactement, mais ça symbolise une unité et une totalité. L'agneau qu'on va voir dans la prochaine vision, qui est Jésus, il a sept yeux. OK? Ça ne veut pas dire que Jésus a sept yeux. C'est qu'il a la totalité de la vision. Il voit comme Dieu voit. Comprenez-vous? Il faut décoder les symboles. Et en même temps, avec beaucoup d'humilité, parce que quand les églises commencent à se chicaner sur la manière de décoder les symboles, on perd du terrain. Mais je peux affirmer qu'il n'y a pas sept esprits de Dieu. Il y a un seul Saint-Esprit, mais ici, il est exprimé un peu dans la forme du chandelier à sept branches. Le Saint-Esprit possède la totalité de Dieu et le fait qu'il y a sept lampes, hein, c'est sept lampes-là, ça va avec les sept porte-lampes qu'on a vues au début, dans la première vision, les sept porte-lampes qui sont les églises. Hein? C'est intéressant. Dieu donne aux églises un porte-lampe, puis là, il envoie son Saint-Esprit pour briller dans le porte-lampe. Nous sommes le porte-lampe, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est la lumière qui brille en nous. Et c'est pour ça que dans les lettres, Jésus dit « Restez fidèles pour que l'Esprit soit heureux de briller parmi nous. » Et j'ose croire que c'est le cas à l'Oasis. Mais il ne faut pas lâcher, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? On doit redoubler d'énergie et d'enthousiasme et de fidélité. Et l'autre symbole important, les quatre êtres vivants, on les retrouve dans d'autres visions, chez Ézéchiel, chez Ésaïe, avec des formes un peu différentes, mais en fait, c'est le même mot que animal. Donc, les quatre êtres vivants, c'est comme des animaux, mais qui ont des ailes et qui voltigent autour du trône de Dieu en train de diriger la louange. Et un peu comme Suzanne, mais sauf qu'elle est vraiment humaine, elle est pleinement humaine. Les animaux volants, dans Apocalypse et dans Ézéchiel et autres, ils dirigent la louange, ils appellent à l'adoration et ils adorent. Le chiffre 4 rappelle les quatre points cardinaux, c'est-à-dire nord, sud, est et ouest. Et les visages qui rappellent les différents animaux et créatures, ça montre que c'est le monde des anges qui sont envoyés dans le monde créé tout entier, dans le cosmos tout entier. Ils sont envoyés parce que Dieu leur donne des tâches, des missions. Mais ce que j'en vois dans sa vision ici, ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont une tâche encore plus importante. C'est d'adorer l'Éternel. Hein? Ils les envoient en mission, mais quand ils ne sont pas en mission, ils sont là devant le trône en train d'adorer et ils adorent sans arrêt. Sans arrêt. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent cette phrase ici. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Alors, Dieu est trois fois saint. C'est une expression qu'on dit et qui est une référence à la sainteté de sa sainteté. Certains pensent qu'il y a une référence à la Trinité aussi. C'est le Seigneur et il est le Tout-Puissant, donc il règne, il a le contrôle. Et il y a une référence aussi à son contrôle sur l'histoire de nos vies et l'histoire des humains. Il était, il est et il vient. Quand on dit qu'il vient, ça se réfère à quoi il vient? À quoi penses-tu quand tu entends que Dieu vient? Bien, il vient, il est là, il est déjà là. Il n'a pas besoin de venir, il vient. Son retour, oui, c'est que sa victoire s'en vient. Le monde dans lequel nous vivons, où on voit parfois le mal plus que Dieu, cette période va se terminer bientôt. Dieu a déjà vaincu et il vient. Le fait qu'il est saint, on a déjà parlé de l'importance de la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est saint? Est-ce que quelqu'un a une suggestion, une idée? Dieu est saint. Différent. Il est vraiment différent. C'est important parce que quand tu es appelé à suivre Jésus, tu es appelé à t'approcher de Dieu. Oui, c'est vrai qu'on va dire « Il t'accueille tel que tu es » parce que sinon, tu ne viendrais pas. Mais attends-toi à ce qu'il te transforme. Parce qu'il est différent et il va te transmettre petit à petit sa différence. Et comme ça, tu vas devenir un objet, un instrument de sainteté, quelqu'un qui va pouvoir parler aux autres de la différence de Dieu et les attirer à leur tour. Tu vas devenir un instrument de Dieu. Un peu comme l'exemple que j'avais dit avant Noël, la fameuse brosse à dents de mon ami qui, pour nettoyer les bottes, hein, il a deux brosses à dents, ou trois. Il y en a une qui était consacrée, rendue sainte, mise à part, non pas pour brosser les dents, mais pour nettoyer les souliers et les bottes. Donc, tâche sacrée. Elle ne peut plus revenir à l'ancienne tâche de brosser les dents une fois qu'on l'utilise pour nettoyer les chaussures. Et de la même manière, nous aussi, en tant qu'Église, en tant qu'individu, nous restons dans le monde, mais nous ne sommes plus appartenant au monde. Nous sommes des instruments de sainteté parce que Dieu est saint. Puis quelle grâce que Jean a reçue. De le voir clairement, hein, ça l'a complètement réénergisé. Quand on perd de vue la sainteté de Dieu, ben on perd de vue notre propre sainteté. On perd de vue le sacré de notre mission particulière. J'ai un ami qui a eu le cancer grave, grave, grave. C'était le cancer de la moelle épinière et il a vécu des traitements tellement agressif. À un moment donné, il avait plus de cellules blanches dans tout son corps, parce qu'il fallait toutes les remplacer. Je vous épargne les détails, mais il a vécu vraiment une expérience de coma où il est rentré, Dieu l'a fait entrer dans le monde céleste. C'est en tout cas son souvenir du songe qu'il a eu durant ce coma. Il a dit, ce que j'ai vécu était tellement beau, tellement puissant, tellement merveilleux au niveau de j'étais devant Dieu. Puis il m'a renvoyé sur la terre. Là, je l'ai vu dernièrement, il est fonctionnel. Il n'a plus de cancer dans son corps, gloire à Dieu. Il dit, mais je vis maintenant un pied sur la terre, un pied dans le royaume de Dieu et je vois la vie autrement. Mais je veux dire, j'étais avec lui, puis c'est comme si j'étais avec un ange. Je sentais la présence de Dieu. Et le gars était comme un enfant, un chrétien avant, même un pasteur. Bien, il n'était plus pareil. C'est comme, « Ah, salut Marc, puis comment ça va? Tes enfants, ton ministère? Ah, c'est cool! Ah, wow! » Et puis c'est un homme pas mal plus âgé que moi. « Ah, est-ce que je peux prendre un selfie avec toi que je pourrais montrer à ma femme? » J'ai dit, « Ben oui, si ça te fait plaisir. Ça serait plutôt à moi de demander. » Il dit, « Non, non, mais vraiment, c'est un moment spécial. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. » On a pris un selfie, puis il voit sa femme arriver. « Hey, Marc Debanet est ici! » C'est comme, tout était devenu spécial pour lui. Puis je me suis dit, « Wow! » Il a vécu un peu quelque chose comme Jean. Et donc, on a besoin de ces personnes-là qui vivent des moments prophétiques pour venir nous réveiller dans notre foi fatiguée. Et vous êtes peut-être fatigué parce que j'arrête pas de parler. Allons-y rapidement pour le dernier paragraphe. C'est que les anges qui voltigent autour du trône, eux, ils disent, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et les 24 anciens qui représentent les humains qui ont été appelés par Dieu, qui ont persévéré jusqu'à la fin, 24, c'est un multiple de 12. 12 dans la Bible, c'est les sections du peuple de Dieu, hein? Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres qui sont maintenant à la tête du peuple de Dieu de la fin des temps. Là, il y en a 24, donc 12 fois 2. Pourquoi 2? Je ne sais pas. Je devrais peut-être inventer quelque chose, mais ce ne serait pas honnête. Mais 24, c'est quand même un multiple de 12. Alors, eux représentent les humains. Alors, chaque fois que les anges disent « Saint, Saint, Saint », puis apparemment c'est sans arrêt, nuit et jour, les humains qui sont assis, ils se lèvent, ils se jettent à terre, ils prennent leur couronne, qui est la Christ, qui est, parce que Christ a vécu en eux, la valeur de leur vie, c'est que Christ a vécu en eux, ils la jettent aux pieds de Dieu le Père. Christ va apparaître, mais un peu plus tard, dans le chapitre 5. Et puis, eux, ils disent, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées, qu'elles existent. » Alors, est-ce qu'on essaye ensemble? Moi, je vais être les anges, puis vous, vous êtes les 24 anciens. D'accord? On va le faire juste une fois. Donc, moi, je vais dire la louange des êtres vivants, qui sont les anges, puis vous, vous dites la deuxième partie. On essaye-tu? OK, mais il faut avoir un peu d'enthousiasme quand même, OK? Parce que c'est quand même le monde céleste, et imaginez l'Éternel sur son trône devant nous. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient! Seigneur est notre Dieu, de recevoir honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Amen. Oui, je vous applaudis. Alors, apparemment, ça n'arrête pas. Et j'imagine que ça ne devient pas plate, parce que c'est la présence de Dieu qui dynamise tout ça sans arrêt. Alors, on remarque quoi? On remarque que ces 24 personnes représentent les saints. Les méchants, il n'y en a pas. Donc, Jean a sûrement dû être frappé par le fait que ceux qui contrôlent le monde par la méchanceté ne sont pas là. Et il faut s'en souvenir. C'est à la fois rassurant, c'est aussi, ça nous réveille par rapport à notre mission d'aller et proclamer la repentance. Deuxièmement, les anges parlent de Dieu, les humains parlent à Dieu. Et ça, c'est intéressant, hein, parce que les humains, ils disent, toi, tu es digne. Puis ça, ça rappelle que, alors que nous, on est comme dans le monde matériel, le monde créé, on voit pas Dieu, on vit non pas par la vue, mais par la foi, contrairement aux anges. Mais, en revanche, on a été créé à l'image de Dieu, contrairement aux anges. Donc, le face-à-face avec Dieu, la relation de personne à personne, on va le dire comme ça, c'est nous qui avons été créés pour ça. Et donc, c'est intéressant qu'ici, que les humains parlent à Dieu dans leur louange. Et nous sommes invités. Tu es invité dans cette relation. Peut-être qu'avant, tu fuyais Dieu. Maintenant, tu es invité dans le face-à-face avec lui. Une relation personnelle avec lui. Une vie de foi. Alors, terminons peut-être avec... Oups! Juste cette... Oh! OK. C'est la diapo qui n'a pas marché. Je pense que vous avez saisi que nous sommes adorés à être des adorateurs. Nous sommes appelés, pardon, à être des adorateurs, à nous souvenir de qui est vraiment en contrôle. À revenir peut-être au livre de l'Apocalypse pour nous rappeler ces choses quand ça va mal. Et à suivre l'agneau dans le combat contre le mal et contre l'erreur dans notre monde. Il reste encore un peu de temps. Il faut tenir ferme. Les armes que Jésus va nous donner, c'est les mêmes que lui a utilisées. Ce n'est pas les mitraillettes. Ce n'est pas la corruption. Ce n'est pas les subterfuges malhonnêtes pour prendre le pouvoir politique. C'est l'amour dans la vérité et la vie par la foi. Nous devons souffrir avec lui pour régner avec lui. Persévérons, mes frères et sœurs. Je voulais juste vous relire un passage qu'on avait lu avant Noël, où Paul dit la même chose, mais dans ses propres mots. Il dit, « Souvenez-vous de qui règne dans l'invisible et qui vous a sauvés. » Et il dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen.